De 1793 à 1794, Robespierre et la dictature de la vertu. La Constitution de l'an 1 est votée en juin 1793, mais elle ne sera jamais appliquée. Les révolutionnaires, Robespierre en tête, décident de la mettre de côté. Ils sentent la République tellement menacée qu'ils vont avoir recours à des moyens plus qu'autoritaires. Depuis la chute de la royauté, la France se trouve sans constitution. Celle qui est adoptée le 24 juin 1793 est l'œuvre des Montagnards. Cette constitution de l'an 1 est très démocratique. Ses auteurs principaux sont Saint-Just et Hérault de Séchelles. Elle confie le pouvoir législatif à une assemblée élue pour un an au suffrage universel. Cette assemblée nomme pour 2 ans 24 membres d'un conseil chargé du pouvoir exécutif. De nombreux droits sociaux sont accordés aux citoyens. Droit au travail, à l'instruction, à la subsistance pour les indigents. Elle est approuvée par référendum, 2 millions de voix favorables, 5 millions d'abstentions. Mais les conventionnels eux-mêmes la jugent inapplicable, en raison des dangers qui menacent la République. Le texte va être enfermé dans une arche de cèdre pour n'en plus jamais sortir. Son article premier précise « La République est une et indivisible ». Plus de Gironde à Paris, plus de Marat non plus. Mais Paris n'est pas la France tout entière. En province, les Girondins parviennent à soulever de grandes villes comme Bordeaux, Bayonne, Marseille, Toulon. Plus de la moitié des départements se révoltent. En Corse, Paoli se déclare le seul maître de l'île. Les Anglais ont débarqué à Dunkerque et à Toulon. Les Espagnols vont s'emparer du Roussillon. La République est menacée de partout. Alors, l'incorruptible Robespierre, l'idéaliste, le rêveur d'un monde meilleur, abandonne pour un temps son bréviaire rousseauiste. Il décide d'organiser la dictature. Mais une dictature à sa façon. Il l'appelle la dictature de la vertu. Cette dictature comprend 2 comités et 1 tribunal. Un comité de salut public, qui devient le véritable gouvernement, créé le 6 avril 1793. On y trouve Danton, Saint-Just, Carnot, Couthon, Billaud-Varennes, Collot d'Herbois. Ils siègent en permanence aux Tuileries, ne rentrant même pas dormir chez eux, couchant sur des lits de fortune. Un comité de sûreté générale, à qui est confié le rôle de police politique, c'est-à-dire l'arrestation sur dénonciation des traîtres ou des trop peu convaincus des idées révolutionnaires. Danton crée le tribunal révolutionnaire, composé de 5 juges, et que préside le fils d'un riche propriétaire picard, Fouquier Tinville. La province n'est pas oubliée. Des représentants en mission y sont envoyés. Ils doivent faire appliquer par tous les moyens les décisions prises par le comité de salut public et, autant qu'ils le peuvent, faire régner la terreur, ce que va particulièrement réussir l'envoyé en mission à Nantes, le sinistre Carrier.
Carrier et ses mariages républicains.
Ce monstre est d'une taille assez avantageuse, il est presque tout en jambes et en bras, il a le dos voûté, le visage oblong et d'un caractère très prononcé. Son nez aquilin rend encore son regard plus affreux. Son teint est d'un brun cuivré, il est maigre et nerveux. Quand il est à la tribune et un peu animé, il semble tirer son discours de ses entrailles déchirées, prononçant les R comme un tigre qui gronde.
Ce portrait de Jean-Baptiste Carrier est écrit par le journaliste Fréron. Il faut ajouter que Carrier, depuis sa jeunesse, est atteint d'alcoolisme chronique. En juin 1793, il est envoyé à Rennes, puis en octobre à Nantes. On lui a ordonné de nettoyer les prisons surchargées de cette ville, parce que, dit-on, les Anglais vont arriver. Alors il imagine, ou approuve, un procédé radical qu'il appelle la déportation verticale. En effet, au lieu de la déportation vers les îles lointaines, il fait embarquer les condamnés sur des barques à fond plat qui qui sont coulés au milieu de la Loire. Les premiers exécutés de la sorte sont des prêtres. Certains d'entre eux s'agrippent au bateau qui les a conduits au lieu du supplice. Leurs bourreaux, parmi lesquels certains reconnaissent leurs anciens paroissiens, leur coupent les mains. Des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants périssent dans ce que Carrier appelle la baignoire nationale. Pour se distraire, il fait lier face à face, avant de les noyer, un homme et une femme étrangers l'un à l'autre, nus. Il appelle cette mise en scène le mariage républicain. Il fait fusiller dans la plaine de Guigan, près de Nantes, guillotiner sur la place du Bouffay. Il s'installe à la fenêtre de son appartement et parfois, en prenant son café, ivre, fait un signe d'adieu aux condamnés. Rappelé à Paris, Carrier sera guillotiné le 16 décembre 1794.
La création des deux comités et du tribunal satisfait parfaitement les révolutionnaires enragés. Ainsi appelle-t-on les partisans d'Hébert, l'Homère de l'ordure, celui qui en veut toujours plus, qui ne cesse de réclamer des têtes. Dans son journal, le père Duchesne, il milite pour l'arrestation immédiate de tous les suspects. Il entraîne les sans-culottes à une grande manifestation où il réclame du pain et la guillotine. Dès lors, la situation aux frontières dans le sud et dans l'ouest étant plus que préoccupante, les désirs d'Hébert sont exaucés. Robespierre met la terreur à l'ordre du jour le 5 septembre 1793. Tous les ennemis de la République sont visés par les mesures qui seront prises. 12 extrémistes entrent au comité de salut public. Le 17 septembre, la loi des suspects est adoptée. Toute personne ne pouvant justifier de ses moyens de subsistance, les spéculateurs par exemple, toute personne appartenant à la famille d'un émigré, tous ceux qui par leurs propos ou leurs écrits se montrent ennemis de la Révolution, ceux à qui on a refusé un certificat de civisme, tous ceux-là sont des suspects, qui peuvent être emprisonnés, jugés et condamnés, en général à la peine de mort. Cette peine est exécutoire dès le lendemain, sans appel. Les comités révolutionnaires dressent la liste de ces suspects. C'est dans ce contexte d'exacerbation de toutes les tendances que le procès de Maria Antonia de Habsbourg, l'Autrichienne, la reine de France, va se dérouler les 14 et 15 octobre 1793. Le mercredi 16 octobre, elle est exécutée.
Je vais rejoindre votre père. 3 jours après que Robespierre et Saint-Just ont décidé que désormais, jusqu'à la paix, ils gouverneraient seuls, le procès de Marie-Antoinette, 38 ans, commence. Elle comparaît le 14 octobre devant le tribunal révolutionnaire présidé par Hermann. Elle est assistée de 2 avocats, Chauveau-Lagarde et Tronçon du Coudray. L'accusateur public, Fouquier-Tinville, lit l'acte d'accusation qui souligne les relations de la reine avec l'ennemi et son rôle dans la dilapidation des deniers publics. Le procès pourrait tourner en faveur de la reine, car elle se défend avec maîtrise et habileté. Mais le substitut du procureur, l'enragé Hébert, voyant que sa future victime pourrait lui échapper, lance contre la mère du dauphin d'immondes accusations qu'il a publiées dans son journal. La reine aurait eu des relations incestueuses avec son fils. La reine prononce alors ces mots qui demeurent à jamais émouvants dans leur simplicité, leur vérité. J'en appelle à toutes les mères. Les avocats de la défense interviennent. Ils sont jugés trop indulgents et arrêtés en pleine audience. À 4 heures du matin, Marie-Antoinette entend sa condamnation à mort. Au petit jour, elle va être préparée pour l'échafaud. Vêtue d'une robe blanche, les épaules couvertes d'un fichu blanc, elle monte dans la charrette des criminels, demeure debout, le dos tourné au cheval, seule. Durant le parcours, son regard scrute attentivement le numéro des maisons. Elle sait que dans l'une d'entre elles, un prêtre réfractaire va lui donner sa bénédiction. On lui a imposé un prêtre jureur. Elle va monter rapidement les degrés de l'échafaud.
lorsque Samson la dirige vers la planche verticale, elle lui monte sur le pied et s'excuse aussitôt. « Monsieur, je vous demande pardon, je ne l'ai point fait exprès. » Le bourreau l'attache contre la planche et l'entend. « Ma fille, mes enfants, adieu, je vais rejoindre votre père. »
Après Marie-Antoinette, les Girondins vont passer devant le tribunal révolutionnaire. Ils sont 21. Ils ont préparé de longues harangues pour leur défense. Mais 3 jours plus tard, le verdict tombe. La mort pour tous. L'un d'eux, Valazé, se poignarde. Les autres vont être conduits à l'échafaud le 31 octobre 1793, dans 4 charrettes. Une 5e étant réservée au cadavre de Valazé. Le premier article de la Constitution de 1793, déclarant « La République est une et indivisible », Jean-François Ducos, ancien député de la législative, lance ce trait d'humour au pied de l'échafaud. « Quel dommage que la Convention n'ait pas décrété l'unité et l'indivisibilité de nos personnes !» Le 6 novembre, c'est Philippe d'Orléans, le régicide, dit Philippe Égalité, qui est guillotiné. Le 10 novembre, c'est Manon Roland.
Manon. Le 10 novembre 1793, Jeanne-Marie Roland, dite Manon, la gracieuse et délicieuse Manon, l'égérie du parti girondin, monte à l'échafaud. Depuis les massacres de septembre, elle voue une haine féroce à celui qui laissa se dérouler ses horreurs, Danton. Son mari, Jean-Marie, ministre de l'Intérieur, a démissionné en janvier 1793 et s'est enfui de Paris en mai. Elle ne l'a pas suivi. Elle est restée auprès de celui qu'elle aime passionnément, le député François Buzot. Elle a tout avoué à Jean-Marie, qui en a profondément souffert avant son exil à Rouen. Ce dimanche 10 novembre 1793, Manon, alors qu'elle se trouve sur l'échafaud, aperçoit une statue représentant la liberté. Alors, selon le bourreau Samson qui le rapporte dans ses mémoires, elle dit d'une voix haute et ferme « Oh, liberté, comme on t'a joué !» Devenu sous des plumes un peu emphatiques, le fameux « Oh, liberté, que de crimes on commet en ton nom !» Jean-Marie Roland apprend la mort de sa femme quelques jours plus tard. Il quitte alors, avec sa canne épée, la maison où il logeait. Il marche en direction de Paris. Au soir, il pénètre dans l'allée d'une forêt, tire sa canne épée et se transperce de 2 coups. Sur lui, il laisse ce message. « Qui que tu sois, respecte mes restes. Ce sont ceux d'un homme qui est mort comme il a vécu, vertueux et honnête. » François Buzot, l'amant de Manon, en fuit en Bretagne, se suicide aussi dans la campagne. On retrouvera son corps une semaine plus tard, dévoré par des loups.
Pendant ce temps, les armées révolutionnaires deviennent victorieuses. Toulon est reprise aux Anglais. Les Vendéens sont vaincus par Kléber, Marceau et Westermann. Les Autrichiens sont écrasés par Jourdan, pendant qu'à l'Est, Hoche remporte des victoires décisives. Puisque la République n'est plus menacée, la terreur n'a plus de raison d'être. C'est ce que pense Danton. Il tente d'en persuader Robespierre. En vain. Celui-ci tient à poursuivre sa dictature de la vertu, coûte que coûte, jusqu'à ce que le bonheur soit garanti pour chacun. Robespierre, le seul maître, le dictateur froid. Hébert, à Paris, ne cesse d'agiter le peuple. Il réclame sans cesse des exécutions, demande que le terrorisme s'accentue. Robespierre le juge excessif, lui et les siens. Il les envoie à l'échafaud le 14 mars 1794. Le club des Cordeliers est supprimé. Danton, Camille Desmoulins, Fabre d'Églantine et Hérault de Séchelles continuent de demander l'arrêt de la terreur. Danton commence à négocier avec l'ennemi pour une cessation des hostilités. Robespierre le juge trop indulgent. Il le fait arrêter avec ses amis qu'il accuse d'avoir trempé dans la liquidation frauduleuse de la Compagnie des Indes. Le procès des Dantonistes a lieu du 2 au 4 avril 1794. Le talent oratoire de Danton est tel qu'il risque de retourner les jurés en sa faveur. On le fait taire, Puis on le fait sortir, son procès se poursuit sans lui. La mort attend Danton et les dantonistes. Le 5 avril, ils sont conduits au supplice. Passant devant la maison Duplay où loge Robespierre, Danton lance de sa charrette « Tu te caches, Robespierre, mais tu vas me suivre !» Parvenu sur l'échafaud, ses yeux s'embuent lorsqu'il pense à la femme et à l'enfant qu'il laisse. Mais il se reprend et, tonnant comme au grand jour, il crie au bourreau Samson « Tu montreras ma tête au peuple, il n'en voit pas tous les jours de pareil !» La fin est transformée plus tard en « Elle en vaut la peine !» Camille Desmoulins écrit le 4 avril, veille de son exécution, une dernière lettre qui va parvenir à sa Lucile tendrement aimée. « Adieu, ma Lucile, ma chère Lelotte. Oh, ma chère Lucile, j'étais née pour faire des vers, pour défendre les malheureux, pour te rendre heureuse. J'avais rêvé une république que tout le monde eût adorée. Je n'ai pu croire que les hommes fussent si féroces et si injustes. Ma Lucile, mon bon loulou, vis pour Horace, notre fils, parle-lui de moi. Tu lui diras ce qu'il ne peut entendre et que je l'aurais bien aimé. » Lucile, Lelotte, va se retrouver sur l'échafaud une semaine après Camille, le 13 avril 1794. Lucile Desmoulins et la femme d'Hébert sont accusées avec plusieurs autres d'avoir conspiré pour faire évader Danton. Lucile va au supplice avec le sourire. Elle réconforte sa compagne. À ceux qui veulent les consoler, elle répond
« Regardez donc si mon visage est celui d'une femme qui a besoin d'être consolée. Depuis 8 jours, je ne forme plus qu'un vœu, celui d'aller retrouver Camille. Et ce vœu va s'accomplir. »
Robespierre est de plus en plus seul, de plus en plus craint. On redoute ses interventions à la tribune. Elles sont souvent des condamnations à mort. Il fait le vide autour de lui, un vide vertigineux. Il poursuit sans faillir son programme de dictature de la vertu, ne supporte aucun écart. Dans les premiers jours de juin 1794, une jeune fille simplette, Cécile Renaud, se présente à la maison Duplay où loge Robespierre. Elle demande à le rencontrer. On lui en demande la raison.
« C'est parce que j'aimerais voir comment il fait un tyran. »
Ses grands yeux étonnés découvriront dès le lendemain, en larmes, la guillotine, Robespierre n'ayant pas apprécié la demande. Au lendemain de la fête de l'être suprême, un dieu de substitution imaginé par Robespierre, lecteur de Rousseau, le 10 juin 1794, la Convention vote un texte qui désigne presque la France entière comme suspecte. Plus d'avocats lors des procès, plus d'instructions, plus de témoins, et une seule peine, la mort. Fouquier-Tinville se frotte les mains. En 2 mois, pendant ce qu'on appelle la Grande Terreur, plus de 1300 personnes sont condamnées à faire connaissance avec celle qu'on appelle, selon le moment ou l'air du temps, la cravate à capet, l'abbaye de Mont à Regret, la bascule, la lucarne, le vasis d'As, le rasoir à Charlot, la petite chatière, la veuve, le raccourcissement patriotique, ou bien la sainte guillotine. Le pourvoyeur se réjouit de voir les têtes tomber, dit-il, comme des ardoises. La triste liste des guillotinés s'allonge. On y trouve le savant Lavoisier. On y trouve celui qui a écrit « La jeune Tarentine », celui qui va dédier son poème « La jeune captive » à Aimée de Coigny, prisonnière comme lui. Celui qui, dans sa solitude carcérale, compose les iambes « Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphyr, anime la fin d'un beau jour, au pied de l'échafaud, j'essaie encore ma lyre. Peut-être est-ce bientôt mon tour. Peut-être avant que l'heure en cercle promenée et posée sur l'émail brillant, dans les 60 pas où sa route est bornée, son pied sonore et vigilant. Le sommeil du tombeau pressera ma paupière, avant que de ses 2 moitiés, ce vers que je commence ait atteint la dernière. Peut-être en ces murs effrayés, le messager de mort, noir recruteur des ombres, escorté d'infâmes soldats. » Le poète André Chénier, exécuté le 7 Thermidor, 2 jours avant la chute de Robespierre. Son père meurt de chagrin l'année suivante. Son frère, Marie-Joseph Chénier, 1764-1811, ami de Robespierre et auteur du fameux chant du départ, « La victoire, en chantant, nous ouvre la barrière », hymne de l'Empire, eût-il pu le sauver ? Oui, c'est presque certain. Fleurus. Le 26 juin 1794, les Autrichiens sont repoussés par l'armée de Sambre-et-Meuse aux ordres de Jourdan, Kléber, Lefebvre, Marceau. D'autres victoires suivent, qui garantissent les frontières. La Belgique va être conquise, les armées, pichegrues à leur tête, s'en vont vers la Hollande. Pourtant, Robespierre s'acharne à vouloir faire tomber encore des têtes, encore des ennemis supposés de la Révolution. Un complot se forme bientôt. Robespierre sent le danger. Il prend les devants en annonçant le 26 juillet 1794, 8 Thermidor, une nouvelle liste de prochaines arrestations. Mais il commet l'erreur de ne pas donner de nom. Tout le monde se regarde. On ose lui répondre, on l'accuse de tyrannie. Tétanisé, Robespierre, qui sait ce qu'il attend, s'assoit sur le banc de l'Assemblée, devient livide. Dans la soirée, il tente de reprendre l'avantage avec les sections de la Commune, mais elles répondent mollement. Il se réfugie alors à l'hôtel de ville le 9 Thermidor, 27 juillet. C'est là qu'au cours de la nuit, les troupes de la Convention, conduites par Barras, investissent la pièce où se trouvent Robespierre et ses amis. Que se passe-t-il alors ? Des coups de feu éclatent. Robespierre gît sur le sol, la mâchoire gauche fracassée. A-t-il voulu se suicider ? Est-ce le gendarme Merda qui l'a atteint presque à bout portant comme il s'en vantera longtemps ? Dès le lendemain de l'attaque de l'hôtel de ville, Robespierre et 20 de ses amis, dont Saint-Just, Couthon, Henriot, Simon, sont conduits à l'échafaud. Robespierre avait été sommairement pansé. Sa mâchoire fracassée tenait grâce à des bandes enroulées autour de sa tête. Capable de marcher, il monte seul, sans être aidé, sur la plateforme. Samson demande à un de ses aides d'enlever les bandages du blessé, car il risque d'entraver le bon fonctionnement du couperet, dont l'action peut s'interrompre en plein milieu de sa tâche séparatrice. Cela s'était déjà vu. L'aide enlève alors sans ménagement le bandage, mais emporte la mâchoire qui pend en morceaux. Robespierre pousse un cri terrible, effrayant. Il est poussé sur la planche. Sa tête tombe. Elle est montrée au peuple, qui applaudit longtemps. Ce 28 juillet, 10 Thermidor 1794, les averses d'orage des jours précédents ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Le ciel s'éclaircit. Il fait un grand soleil.